je crois, ont préparé nos cœurs. Et je pensais notamment à ce chant que nous avons chanté, « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. » Et oui, à toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Et cette cinquième strophe qu'on a chantée, « Jésus donne grâce et gloire pour le suivre, pas à pas. » Et ces chants, je crois, ont préparé nos cœurs déjà à ce que nous puissions être fortifiés les uns et les autres. Ce n'est pas toujours facile dans cet engagement que nous avons pris ou que nous voulons prendre, en tout cas que nous voulons maintenir. Et je crois aussi, c'est ce cantique qui m'a aussi fait beaucoup de bien tout à l'heure, « Prends mon âme », parce que je crois que le secret, il est là aussi, c'est de pouvoir déposer notre âme entre les mains du Seigneur. Et je crois que lui, il a tout ce qu'il faut pour nous réchauffer, pour nous encourager. Je voudrais qu'au travers de sa parole, les uns les autres, nous puissions vraiment être encouragés à aller plus loin avec lui. On va lire un premier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 19 et le verset 20. Évangile de Jean, chapitre 20. On lira plusieurs textes ensemble ce soir, que nous puissions vraiment nous laisser imprégner de la parole du Seigneur. Il y a tellement de choses importantes pour nos vies. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 19. « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. On lit un peu plus loin au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. » Et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. C'est un texte que l'on connaît bien. Certains même qui ne sont pas très familiers avec la parole de Dieu connaissent un peu cette histoire avec Thomas. Moi, je suis comme Thomas. Je crois que ce que je vois, c'est une expression un peu galvaudée. Mais même en tant que chrétien, c'est un texte que l'on connaît bien. Et il y a dans ce texte le titre de notre message ce soir, c'est « Il tient en un mot ». C'est le mot que le Seigneur Jésus a adressé à Thomas. Je le trouve extraordinaire. « Avance ». Avance. La question qu'on pourrait se poser dans cette introduction, mais quelle réaction j'aurais pu avoir, moi, vis-à-vis de Thomas ? C'est vrai qu'il faut se replacer un petit peu dans ce contexte où le Seigneur avait tout annoncé d'avance. Plusieurs fois, le Seigneur avait présenté tout ce qui allait se passer. Quelle réaction on aurait pu avoir ? Tu vois, Thomas, je te l'avais bien dit. T'as pas voulu me croire. Et il écrit, il a dit lui-même, je ne croirai point. Il avait la réaction de Jésus. Jésus aurait pu lui dire, mais Thomas, je suis vraiment déçu. Jésus aurait pu le dire. Jésus aurait pu manifester une déception. Je t'avais tout annoncé d'avance. J'avais montré même comment les Écritures avaient parlé de tout ce qui est arrivé. Et pourtant, tu n'as pas cru. La chose s'est passée ainsi que je l'avais annoncé. Jésus aurait pu lui dire, arrière de moi, Thomas. Dans d'autres circonstances, le Seigneur l'a fait. Jésus aurait pu manifester la sévérité. Jésus aurait pu lui dire, on voit cela dans la parabole des vierges folles, Thomas, je ne te connais pas. Et j'aimerais vous dire ce soir que qui que nous soyons, quel que soit le niveau de notre foi, le Seigneur ne nous juge pas. Le Seigneur nous connaît, on n'a pas à tricher devant lui, il connaît nos cœurs parfaitement, il connaît les progrès de notre foi, il connaît les chemins que nous parcourons, il connaît les moments où aussi nous avons régressé. Tout cela, il les connaît parfaitement. Mais sa parole, je crois, elle est peut-être pour nous ce soir, peut-être au moins pour une personne. Avance. Quel mot extraordinaire. Peut-être Thomas aurait pu s'attendre à plein d'autres. Peut-être que lui, s'il avait pu anticiper cette rencontre, aurait pu imaginer plusieurs scénarios. Que nous puissions entendre ce message ce soir. Avance. Avance sur le chemin de la foi. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de longs discours. Un mot suffit. Qui veut le croire ce soir? Un mot suffit. Avance. En tout cas, un homme, un centenier, un païen, un étranger au peuple de Dieu l'a cru. Vous connaissez cette histoire de ce centenier qui s'est approché pour la guérison de son serviteur. Il a dit au Seigneur Jésus, « Dis un mot. Un mot suffit et mon serviteur sera guéri. » Cette foi a été extraordinaire puisque le Seigneur Jésus lui-même en a fait l'éloge. Et cet homme a été richement béni. Il vous suffit de croire ce soir qu'un mot peut bouleverser bien des situations dans nos vies. Qui a besoin ce soir d'un attouchement particulier du Seigneur? Qui le veut aussi et qui veut faire comme nous l'avons chanté dans ce cantique, laisser son âme entre les mains du Seigneur pour recevoir la vie telle qu'il veut la donner? En tout cas, cette invitation extraordinaire du Seigneur Jésus à s'approcher de lui, pour que notre foi soit stimulée, eh bien, elle doit nous encourager les uns les autres à nous abandonner pleinement entre ses mains et à lui faire absolument confiance envers tout, contre tout, malgré toute situation, même sans voir. Vous avez vu ce qu'a dit le Seigneur Jésus ? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est un message quand même extraordinaire et nous avons besoin, nous aussi, de nous l'approprier pleinement dans notre vie. Alors ce soir, on va articuler notre message avec deux questions très simples. La première question, ça sera celle-là. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer? Et la deuxième question sera celle-là, aussi simple. Qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer? Alors cette première question, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer? Quel que soit le niveau de notre foi, et je crois que là, à ce moment-là, on est un petit peu tous sur le même pied d'égalité. Je crois qu'il est intéressant d'analyser ce qui a pu ou ce qui peut être en ce moment ou ce qui pourrait être plus tard. C'est peut-être à titre préventif que parfois le Seigneur nous l'adresse. Ce qui pourrait être un obstacle à notre avance dans la foi. Parce que je crois, en tout cas pour la quasi-totalité ce soir, nous ce que nous voulons c'est continuer à aller de l'avant, continuer à marcher et que... au terme de notre voyage, le Seigneur puisse nous trouver encore debout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Alors, le premier obstacle, on le voit très nettement dans ce texte, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Ne sois pas incrédule. Est-ce que vous croyez que parfois le Seigneur pourrait nous le dire? Répondez à vous-même, hein, bien sûr. L'incrédulité... c'est certainement pour notre société le plus grand obstacle à la foi. Nous vivons dans un monde où on a tout fait pour opposer la raison et la foi. On a voulu complètement opposer l'un par rapport à l'autre, alors qu'en définitive, comme l'a dit dans un livre un Américain, la raison en fait, elle est pour Dieu. C'est Dieu qui est la raison et surtout qui a raison. On vit un petit peu à l'image un petit peu de Thomas, je ne crois que ce que je vois, moi je suis rationnel. Et c'est un petit peu dans cette mentalité hein, que le monde essaye de nous inculquer toutes ces théories scientifiques pour justement nous éloigner complètement de la foi. La Bible, par la bouche de l'apôtre Paul, elle nous invite à marcher par la foi et non par la vue. C'est complètement différent. Marcher par la foi et non par la vue. Pour ceux qui prennent des notes, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. C'est vrai que cette vue physique, souvent, elle nous fait terriblement obstacle. Et c'est comme un mur, parfois, par rapport à cette vue spirituelle dans laquelle le Seigneur veut nous engager. Cette vue, à un certain moment donné, elle a même empêché le peuple d'Israël, vous savez, le peuple d'Israël, quand il est sorti du pays d'Égypte pour aller vers le pays de Canaan, c'est un petit peu, en tout cas, l'image aussi de notre marche chrétienne en route vers la terre promise. À un certain moment donné, alors que le peuple d'Israël avait fait d'énormes expériences avec le Seigneur, alors que le peuple d'Israël, dans maintes situations, eh bien, a connu vraiment le secours de Dieu quand il a eu soif, il a eu de l'eau, quand il a eu faim, il a eu à manger, etc. Même pendant des guerres difficiles, le Seigneur a été à ses côtés. À un moment donné, pas loin d'entrer dans le pays de la promesse, le peuple a trouvé un obstacle encore plus grand que tout ce qu'ils avaient rencontré, c'était leur incrédulité. Et ce qui fait frémir dans cette expérience, c'est aussi ce qui peut peut-être parfois nous arriver à nous, lorsque, si près d'arriver au but, parfois nous abandonnons, et que le Seigneur nous aide à être fidèles jusqu'au bout. Dans Nombre, chapitre 13, on va le lire ensemble, ce passage qui nous montre comment l'incrédulité. Nombre, chapitre 13. C'est un passage que l'on connaît bien aussi. On va lire les trois premiers versets. Nombre, chapitre 13. Verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Elle y était la promesse que je donne. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On passe un peu plus loin, chez vous, tranquillement, vous pourrez relire ces textes, et on arrive au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays, il est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, j'allais dire le pays que le Seigneur voulait leur donner. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, la vue, sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. La vue physique, d'ailleurs, qui nous fait défaut parce qu'ils se sont vus même comme des sauterelles. Ces hommes n'ont pas su voir l'invisible, hein, que Dieu voulait leur donner, et la puissante main que le Seigneur voulait manifester pour le secours de son peuple. Alors que la foi dit avance, l'incrédulité, elle dit, c'est de la folie. Folie pure, c'est impossible. Pourtant, Dieu les avait secourus tant de fois, et cela peut parler aussi de notre vie, parfois où nous avons fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur, et parfois sur des moments particuliers, parfois même des situations qui semblent moins compliquées ou à la limite qui soient moins nécessaires de faire agir notre foi. Pourtant, pour des raisons particulières, nous aussi, nous avons dit, c'est impossible, de la folie pure. En tout cas, ces hommes n'ont pas marché par la foi, mais cette vue physique, cette vue où ils ont regardé ce pays, ils ont pu constater effectivement que l'Éternel avait raison sur ce pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, ils se sont laissés comment dire, découragés, l'incrédulité a envahi leur cœur. Et dans ce texte, on voit très, très clairement, et c'est pour ça que j'ai voulu le prendre avec vous, les dangers de l'incrédulité, aussi pour nous, pour notre propre vie, le danger pour continuer et avancer. Et c'est parfois la raison pour laquelle ce qui nous empêche d'avancer parfois, c'est bien l'incrédulité de notre cœur. Mais j'ai pris ce texte aussi parce qu'il y a deux autres raisons qui peuvent nous empêcher d'avancer. Les deux autres raisons, c'est le découragement et la peur. Découragement et la peur. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a tellement de raisons à vue humaine en tout cas, d'être découragé. Et vous savez, la vallée du découragement, c'est souvent un piège pour nous empêcher d'avancer. Et nous devons faire attention les uns et les autres, non seulement pour notre propre vie, mais vous savez, le découragement, ça aussi de particulier, c'est que c'est contagieux. Hein, ça se transmet aux autres. Et on le voit très nettement. Regardez juste quelques versets au chapitre 14. Regardez au verset 1er, juste un peu plus loin. Toute l'assemblée, voyez, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël, tous, au départ, c'était les 10 espions hein, parmi les 12. Et là, on voit que tout le peuple murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Alors que le peuple d'Israël était si près d'atteindre le pays de la promesse, alors nous, on n'est pas là forcément voilà, pour les juger ou pour les pointer du doigt, ou à la limite, peut-être qu'on peut se retrouver, hein, même si c'est à minima, dans certaines situations que nous vivons dans notre vie, non seulement nous sommes arrêtés, bloqués, non seulement nous sommes incapables d'avancer, mais pire, ils voulaient retourner en arrière. Et que le Seigneur nous aide à réaliser aussi que le découragement, ça peut être un obstacle. En tout cas, c'est ce qui peut nous empêcher parfois d'avancer. Et il est bon d'entendre cette parole du Seigneur. Avance. Vous savez, quand on cumule parfois des expériences négatives, et on le rencontre souvent aussi dans nos assemblées, plusieurs se sont peut-être engagés dans le service du Seigneur, peut-être plusieurs ont pris des bonnes résolutions, et pour X raisons qui semblaient plus ou moins valables à vue humaine, qu'importe le résultat, ils se sont arrêtés. Ils se sont découragés. Certains continuent à suivre, mais ils se sont arrêtés. Et ils n'ont pas avancé comme le Seigneur voudrait qu'ils avancent. Il y en a parmi nous ce soir, et j'y pense souvent dans mes prières, que vous puissiez entendre cette voix du Seigneur, avance. Pierre, à un moment donné, a été découragé. Il avait péché toute la nuit. Je voudrais lire ce texte avec vous aussi, dans Luc, chapitre 5, verset 4. Luc, Évangile de Luc, chapitre 5, Pierre avait de bonnes raisons d'être découragé, fatigué, et cela nous parle aussi de la fatigue physique que l'on peut connaître aussi dans notre vie, une fatigue légitime. Pierre, il avait des raisons d'être épuisé avec toute la nuit où ils avaient travaillé. Luc 5, verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance !» Avance en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous, cette attitude de Pierre. Avance. Il a entendu lui aussi ce mot, avance, avance. Et Pierre était découragé, fatigué, pour ne pas dire épuisé, mais il l'a entendu, il l'a reçu. Et si vous lisez la suite, vous verrez qu'il a été richement béni puisqu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Il est dit au verset 6 que même que leurs filets se rompaient. Voilà, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer? Eh bien, j'ai parlé de l'incrédulité, de découragement. Il y a aussi la peur, nous l'avons vu dans le peuple d'Israël, cette peur qu'ils ont eue un petit peu de... Et la peur, pour moi, je l'assimile à pratiquement la paralysie de la foi. Si on laisse la peur comme cela, c'est vraiment un obstacle dans notre vie, et il est impossible d'avancer. Regardez dans Matthieu chapitre 14, un peu plus en avant, Évangile de Matthieu au chapitre 14. C'est un texte que nous connaissons bien aussi, mais qui j'ai voulu le prendre pour que nous puissions comprendre que parfois, eh bien, on peut bien commencer aussi, et voilà. Matthieu chapitre 14, verset 24, « La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus leur répondit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, un mot, hein ?« Viens. » Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus, aussitôt. Notez ce « aussitôt ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et nous disons, « Amen. » La peur, voilà, qu'est-ce qui peut nous empêcher aussi d'avancer ? La peur. Et oui, il y a des situations parfois où il y a la peur, question aussi de la frayeur des moments, et c'est vraiment la paralysie de la foi. Et nous avons besoin, nous aussi, de nous mettre entre les mains du Seigneur. Et j'aime cette façon, cette délicatesse, là nous a été rappelé longuement dimanche matin, cette délicatesse avec laquelle le Seigneur ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, mais puissions-nous réaliser encore ce soir qu'il est près de chacune de nos situations et prêt à nous secourir si nous aussi nous donnons notre main à la sienne. Je voudrais vous laisser un quatrième point dans cette première partie. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer ? Parce que je crois que c'est aussi quelque chose d'important comme obstacle dans la marche dans la foi, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est presque un peu une sclérose dans l'Église et dans la vie du croyant. Qu'est-ce que le légalisme ? C'est le souci de respecter scrupuleusement la loi, la lettre de la loi, les formes qu'elle prescrit, sans que le cœur, sans que la conscience soit réellement engagée devant Dieu. Et c'est un obstacle aussi parfois à notre marche avec le Seigneur. Le légalisme, c'est quand on va s'imposer soi-même et imposer aussi aux autres le respect littéral des textes de la loi au détriment de son esprit. Et l'apôtre Paul l'a bien dit, la lettre elle tue, mais l'esprit vivifie. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6, pour ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens 3, verset 6. Et je voudrais juste lire un texte avec vous dans Galates, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, le légalisme aussi dans notre vie qui peut nous empêcher d'avancer tel que nous le voudrions et aussi surtout comme le Seigneur voudrait que nous avancions. L'apôtre Paul sera même obligé d'utiliser des termes assez forts, vous allez voir, pour essayer de faire un électrochoc. S'ils n'étaient pas écrits, ces versets, on aurait du mal à... Mais ils sont là et je crois qu'ils ont toute leur importance pour nous alerter sur ce sujet. Galates 5, verset 4. « Vous êtes séparés de Christ. » Il parle à des croyants. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Marchez bien. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous aviez bien commencé. Vous étiez dans un bon élan et vous vous êtes arrêté. Il y a aussi, et nous devons être vigilants à cela pour notre propre vie, et aussi peut-être parfois dans la vie des autres, parce que le légalisme aussi, c'est quelque chose, je parlais tout à l'heure de l'effet contagieux, un peu du découragement, mais le légalisme, c'est un petit peu ça aussi, hein, où nous pouvons facilement un petit peu le propager et impliquer les autres aussi dans cette perspective, et nous devons être vigilants. Alors, je vais venir sur la deuxième question. Je ne dis pas qu'elle soit plus positive, c'était important que nous puissions faire le point sur ces points-là, mais cette deuxième question, mais qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer? Alors, la première des choses, c'est bien sûr la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tout comme Thomas, nous pouvons recevoir cette parole nécessaire pour peut-être commencer le chemin de la foi, peut-être le reprendre là où nous l'avons arrêté, ou tout simplement le continuer. Nous avons toujours besoin de cette nourriture, de la parole de Dieu, pour continuer sur le chemin de la foi. Thomas a reçu cette parole pour sa vie. Avance. Quel sera le mot, la parole, qui sera utile pour que nous puissions saisir nous aussi cette grâce? Il n'est pas étonnant, malheureusement, que beaucoup dans nos assemblées, beaucoup de croyants se soient arrêtés sur le chemin de la foi parce qu'ils ne peuvent pas recevoir cet appel, ce mot, quel qu'il soit, avance, parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne lisent pas suffisamment la parole de Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important que je veux rappeler ce soir et vous encourager à méditer et à lire la parole de Dieu, parce que si nous ne la lisons pas, nous ne pouvons pas être attentifs et nous ne pouvons pas recevoir la parole qui sera une bénédiction pour notre vie. Pierre, il a saisi cette parole. Pourtant, il avait de bonnes raisons, en tout cas, d'être découragé. C'était l'heure pour lui d'aller se reposer. Il avait travaillé toute la nuit. Il y avait vraiment cette fatigue physique. Et au final, il a été richement béni parce qu'il a reçu cette parole du Seigneur. Oui, nous aussi, nous avons besoin d'être à ce contact rapproché, je dirais, avec la parole de Dieu. Plus que la parole des hommes qui nous transmettent la parole de Dieu directement dans notre propre vie, dans nos foyers, dans nos temps disponibles, que nous puissions méditer, nous nourrir de la parole de Dieu. Pour certains, il semble que la lecture de la Bible soit une option. Je le dis, presque un petit plus dans notre vie de croyant. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger, un véritable danger. Car ils ne peuvent pas retirer de la parole de Dieu toute cette richesse nécessaire pour avancer. On va lire un verset, je l'ai à cœur ce soir, dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 et le verset 4. Nous avons lu tout à l'heure quelques passages de l'Ancien Testament. Parfois on dit, voilà, c'était pour du temps d'Israël, tout ça, mais toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et tout cela n'a pas été mis au hasard par l'Éternel, notre Dieu. Et dans Romains, au chapitre 15, le verset 4, l'apôtre Paul dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Dans la version Semeur, que je lis assez souvent, il est dit ceci « Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. » L'espérance, bien sûr, de tout ce que le Seigneur a préparé en avance pour nos vies, mais nous pouvons recevoir la consolation, les encouragements par les Écritures même. C'est pour cela que les choses, en tout cas, ont été consignées par la sagesse même de Dieu. Et c'est dommage. Dommage de se priver de ce qui va nous permettre d'avancer. Qu'est-ce qui peut nous faire avancer? Oui, la parole de Dieu. Dieu nous a laissé de nombreux témoignages dans sa parole pour que nous puissions puiser des forces et du courage dans cette marche qui est si difficile parfois. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on va le lire ensemble. Allez, dans Hébreux chapitre 12, Je veux le lire avec vous parce qu'il faut vraiment réaliser que dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions être vraiment puissamment fortifiés dans notre marche avec le Seigneur. On ne peut pas être négligent. Je le redis, ce n'est pas une option, ce n'est pas un plus dans notre vie chrétienne de lire la parole. C'est une nécessité. Et nous sommes en danger chaque fois. D'ailleurs, si vous discutez, si vous voyez un peu le témoignage de ceux qui ont abandonné le Seigneur, ça commence souvent par là. Négligence de la prière, négligence de la lecture de la parole. Et nous devons être vigilants. Et il y a tout ce qu'il faut. Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains. Tout a été consigné dans l'Écriture pour cela, pour que nous soyons encouragés. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous connaissez le chapitre 11 particulier, où il fait l'éloge des héros de la foi, va nous parler dans ces trois premiers versets du chapitre 12 du puissant fortifiant que nous trouvons dans l'exemple de Jésus. C'est dans les Écritures que nous voyons la vie de Jésus, ses comportements, comment il a subi toutes ces souffrances. Et cela est un puissant fortifiant pour notre marche. On le lit ensemble, verset 1er, Hébreux 12, verset 1er. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Amen. » Attachons-nous, mes frères et sœurs, à cette parole comme un puissant stimulateur pour notre foi. Nous avons l'exemple de Jésus et tous ces textes dans la parole de Dieu. J'avance un peu plus vite. Qu'est-ce qui pourrait nous faire avancer? La parole de Dieu. Et aussi un autre point que je voulais partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui m'est tellement personnel, mais que je crois qui est commun aussi à plusieurs d'entre nous, c'est la bienveillance de Dieu. La bienveillance et la bonté, vous savez, ce sont deux termes qui sont assez proches. Et on pourrait dire que la bienveillance, c'est la manifestation de la bonté. C'est un petit peu comme l'amour de Dieu qui est en action. Et je suis émerveillé de voir la détermination de Dieu à redonner du courage à ses enfants. Qu'est-ce qui peut nous faire avancer ? La bienveillance de Dieu. Je peux vous en parler, je pense que plusieurs en pourraient en parler, la bienveillance de Dieu. Je voudrais regarder un exemple avec vous, un exemple d'un homme qui avait aussi bien commencé avec le Seigneur, fort bien commencé d'ailleurs, on va le lire ensemble, dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Vous connaissez ce texte de Élie. Il avait fort bien commencé, lui aussi, il a fort bien marché, il faudrait lire les passages précédents, vous le ferez peut-être chez vous. Et puis, à un moment donné, il a été arrêté. Il a eu peur, lui aussi. Il a eu peur. Le découragement est arrivé sur sa vie. Et je voudrais lire ces quelques versets dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8. Juste pour qu'on puisse regarder ensemble et être émerveillé de la bienveillance de Dieu à l'égard de ses enfants qui parfois sont découragés. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt et voici, regardez la bienveillance de l'Éternel. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi ». Mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha. Il dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Cette nourriture, la bienveillance de Dieu, vous pouvez y compter, mes frères et sœurs. Vous qui marchez avec le Seigneur, vous qui voulez continuer à rester fidèle dans ses voies, vous pouvez compter sur la bienveillance de Dieu pour avancer. Ne voulons pas, nous les uns et les autres, cet attouchement divin pour être puissamment fortifiés. C'est vrai que Dieu parfois permet des moments difficiles de notre vie et on ne peut pas les occulter. Des moments qui sont très difficiles. Un jour, Jésus a dit ceci à Pierre, « Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi, elle ne vienne pas te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Dans Luc 22, versets 31 et 32, je vous l'ai lu dans la version Semeur, Luc 22, versets 31 et 32. Parfois le Seigneur, voilà, il permet qu'on passe dans des situations. On aurait aimé peut-être que Jésus dise, voilà, t'inquiète pas, Satan vous a réclamé, j'ai fait une liste. Voilà, sur cette liste, il ne les touchera pas, non. Mais j'ai prié pour toi. Et cette bienveillance de Dieu, on la retrouve aussi dans cette image extraordinaire de la parole de Dieu, de ce berger. Nous sommes le troupeau, nous marchons, et lui, il veille sur nous, et il prend soin de son troupeau. Dans Ésaïe, il y a ce verset, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Ésaïe, chapitre 40, verset 11, toujours dans la version Semeur, mais vous pouvez lire aussi dans votre version, c'est quasiment la même chose. Je terminerai par ce troisième point. Qu'est-ce qui peut nous faire avancer? Nous avons parlé de la parole de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Et il y a aussi, bien sûr, la prière. La prière. C'est un formidable stimulant pour reprendre de plus belle la marche par la foi. On est souvent tellement empêtré par les choses visibles de notre vie qui sont là et qui nous accaparent. Et qui empoisonne parfois notre désir de saisir les réalités qui sont invisibles aux yeux humains, mais qui sont des réalités spirituelles auxquelles Dieu veut que nous goûtions les uns et les autres. Quel dommage là aussi de se priver autant de la prière. La prière comme stimulant pour notre foi, pour que nous continuions à avancer. Et là, je veux lire un texte aussi avec vous dans Luc, chapitre 22. Évangile de Luc, chapitre 22. Ce sont des moments, au verset 39, d'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Luc 22, verset 39. « Après être sorti, Jésus alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Verset 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Seul celui qui avait prié resta fort et put continuer la marche jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Et là, dans ce jardin de Gethsémané, où il ressent cette agonie, certainement ce poids du péché qui est en train de l'accabler, de cette séparation qu'il pressent avec son Père, qui finira par ce cri à la croix du calvaire, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, si saint, sans péché, devait recevoir sur sa propre vie le péché de l'humanité. Mais il ne voulait pas que ça se termine à Gethsémané. Il voulait aller jusqu'à la croix. Il a prié instamment son Père pour continuer le chemin jusqu'au bout. Et il est dit dans la parole qu'un ange est venu le fortifier. Alléluia. Par la prière, nous recevons ce formidable stimulant. Il y a un petit peu les deux contrastes, les disciples. Voilà, eux, ils n'ont pas pu trouver ce temps, en tout cas cette force nécessaire pour prier et veiller. Et vous savez comment ce qui s'est passé quelques minutes après, au moment de la tentation, ils ont échoué. Et ce n'est pas pour leur jeter la pierre, mais pour que nous puissions nous aussi être alertés sur ces choses-là. Le psalmiste dit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Psaume 138, verset 3. Je voudrais conclure par ces quelques mots. Il y a sûrement trois cas de figure possibles ce soir au milieu de nous. Peut-être vous n'avez jamais commencé à marcher par la foi et il est important, primordial ce soir, que vous puissiez faire ce pas, donner votre cœur à Jésus qui est le seul capable de sauver votre âme. Et comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 12 verset 1er, c'est lui qui initie la foi dans notre cœur et qui l'amènera tout au long de votre vie à la perfection. Il y a certes, peut-être aussi un deuxième cas de figure, peut-être que vous vous êtes arrêté pour X raison, quelle que soit la raison. Nous, on n'a pas besoin de la connaître. Peut-être que vous-même, vous la connaissez pas réellement. Jésus la connaît parfaitement. Vous vous êtes arrêté. Il vous faut repartir en comptant sur la grâce et sur le secours de Dieu. Et j'espère que ces versets, ces textes que nous avons lus seront suffisants pour que vous saisissiez la bienveillance que Dieu veut manifester pour chacune de vos vies ce soir. Vous vous êtes arrêté, mais le Seigneur vous dit « Avance ! Je veux que tu ailles plus loin avec moi. » Et la troisième catégorie, cas de figure, j'espère pour la quasi-totalité de nous ce soir, vous marchez, vous êtes dans la marche avec le Seigneur, c'est bien, mais il faut être prudent. Et il faut puiser en Dieu tout le courage dont nous aurons besoin pour tenir ferme après avoir tout surmonté, comme dit la parole de Dieu. La parole étant de prière, comptez sur lui. Tout le temps de notre vie, nous réalisons, plus nous avançons, que nous avons tellement, tellement besoin de lui, les uns et les autres. N'oublions jamais qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, et nous pouvons le faire pour nous aussi. Et je voudrais terminer quand même par un passage qui voudrait puisse vraiment être ce stimulant pour nos vies. Ésaïe, chapitre 40, verset 28, c'est promis, c'est le dernier texte. Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais, verset 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatigue point. Amen. Prions le Seigneur un instant. Éternel notre Dieu, au point où nous en sommes arrivés avec toi, nous voulons tous te dire merci. Seigneur, tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Nous n'étions pas meilleurs que les autres. Et tu as su trouver dans nos vies Seigneur, ce point particulier qui nous a donné la force et le courage, Seigneur, de nous tourner vers toi. Et nous avons reçu de toi, Seigneur, la grâce d'être sauvés, le pardon de nos péchés. Seigneur, c'est le plus grand miracle que tu as fait dans notre vie. Et ce soir, nous réalisons ensemble, couverts par le sang de Jésus, qu'il y a encore d'abondantes bénédictions qui, Seigneur, sont greffées sur notre vie à cause de cela. Merci pour la vie éternelle. Merci, oui, pour cette espérance que nous avons les uns et les autres, un jour que nous te verrons face à face. Mais c'est vrai que d'ici là, nous avons besoin les uns et les autres de continuer cette marche. Et nous réalisons qu'il y a tellement de situations où parfois même l'ennemi veut nous arrêter sur le chemin. Nous voulons regarder encore à toi ce soir et réaliser que nous avons besoin les uns et les autres de dépendre toujours de toi dans toutes les situations de notre vie. Que nous soyons fervents dans la prière, fervents dans la lecture de ta parole. Que nous soyons fervents aussi pour attendre ta bienveillance, le secours que nous avons besoin dans chacune de nos situations. Je te priais pour chacun d'entre nous ce soir. Merci parce que ta parole ne nous condamne pas, elle ne nous juge pas. Mais elle est là ce soir pour nous donner, Seigneur, ce puissant stimulant afin d'aller plus loin avec toi. Merci Seigneur parce que en comptant sur ta grâce, en comptant sur ton secours, nous savons les uns et les autres que nous pourrons aller jusqu'au bout avec toi. Et nous te disons merci par avance de tout notre cœur. Amen.